Salut à toutes et à tous, comment ça va?
Bah moi ça va bien, hein. Et aujourd'hui d'ailleurs je voulais vous partager une deuxième chronique que j'ai adoré faire sur le thème de la Seconde Guerre mondiale à Lyon. Parce que oui, Lyon a été désignée officiellement capitale de la résistance. Et vous savez par qui? Eh ben je vous le dirai pas, enfin si, je vous le dis, mais la réponse elle est dans cet épisode. Bah oui, ça s'appelle un teasing ou une introduction. Et pour rappel, cette chronique fait partie d'une émission complète de Ganache, le podcast de la culture à la saucionnaise. Et si vous voulez écouter toute l'émission, c'est déjà dispo sur toutes les plateformes, donc allez-y. Et là, maintenant, tout de suite, là, maintenant, de suite, là, maintenant, de suite, bah c'est parti, on part direction 1940. Allez, bonne écoute.
Je connais pas le Moyen-Âge. Ah bah dis donc, toi, question culture, hein. What's up?
La culture burgonde. Je savais même pas qu'il y en avait une.
L'histoire de Lyon, comme vous l'avez jamais entendu, vous est présentée par JD, seulement dans Ganache.
Et c'est qui le Lyon maintenant?
Alors, pour parler de la Seconde Guerre mondiale, je trouve que c'est jamais en fait un exercice facile, parce que mine de rien, c'est un conflit hyper récent. Quand je dis récent, c'est qu'il y a encore des personnes vivantes aujourd'hui qui l'ont vécu, voire même qui l'ont faite. Ceci étant dit, aujourd'hui, je vais évidemment vous parler de Lyon pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que Lyon, durant cette période, a été la capitale de la Résistance. Lyon, parmi tous les titres de capitale qu'elle a glané au fil des décennies, comme capitale de la gastronomie, capitale des Gaules, ça on en parlait dans la dernière émission, tous les deux, hein, ensemble, avec Sérène, elle a été aussi capitale du mouvement ouvrier au 19e siècle, capitale de l'imprimerie, capitale de la soie, etc., etc. Et donc, capitale de la Résistance. Et ça, ça va être le sujet de la chronique d'aujourd'hui. Mais du coup, à votre avis, les ganaches, est-ce que vous savez pourquoi Lyon a gagné ce titre de capitale de la Résistance?
Alors moi, je dirais parce qu'il y a eu plein de femmes qui sont devenues un peu des icônes de la Résistance française et qui ont un peu mené de front. Et j'en connais une, voire deux.
Okay.
Une première qui s'appelle France Peugeot, qui est la maman de Jean-Michel Jarre.
Okay. Oh.
Et figurez-vous qu'il y a une voûte qui relie la place des Archives et la place Carnot dans le 2e arrondissement. Mmh. Une voûte qui a été créée pour le transport de la mobilité douce, donc vélo et à pied. Mmh. Et cette voûte a été appelée la voûte France Peugeot, justement pour...
Lui rendre hommage. Okay.
Et Jean-Michel Jarre est venu à Lyon pour l'inaugurer.
Bah oui, Jean-Michel Jarre, c'est qui est un Lyonnais. Hein.
Exactement. Et puis il y a la fameuse deuxième personne que tu vas parler, donc je vais te laisser la joie d'en parler tout seul.
Mais je pense qu'en plus, là, on commence à parler récemment des femmes résistantes, mais la personne dont on a parlé pendant des décennies, ça reste quand même Jean Moulin. Il y a aussi les Traboules qui servent à la Résistance.
Oui.
Enfin, il y a tout un mélange de choses qui ont créé une histoire scénario de film autour de Lyon. Tout à fait.
D'ailleurs, L'Armée des Ombres, là on a le bouquin qui est juste à côté de Joseph Kessel qui a été adapté en film. Et je vous le conseille d'ailleurs. Le film est très cool.
Faut être
dans un bon mood hein, pour le mater par contre. Il est cher badant.
Okay.
Mais après.
Juste, je rebondis sur France Peugeot parce que j'ai découvert sa vie du coup. Elle avait une boutique, je crois, dans le premier ou dans le deuxième, si je dis pas de bêtises, une boutique de lingerie. Et en fait, les résistants et résistantes pouvaient traverser la boutique et aller faire leur.
Classique.
Mais c'était dans de la lingerie, c'est rigolo.
Ouais, c'est
voilà.
Bah, en tout cas, vous avez donné que des bonnes réponses.
Ah,
vous
cool.
avez donné que des bonnes réponses.
Quelle culture générale.
Donc, effectivement, on va parler de tout ça. Il y a d'autres facteurs, et ça, on va en parler aussi. En fait, à la base, c'est le général de Gaulle lui-même qui a attribué ce titre à la libération de Lyon. Ça s'est fait quasi après, lors d'un discours qu'il a prononcé au balcon de l'hôtel de ville, avec cette phrase mythique. Comment dire à Lyon? Non, je sais pas faire les imitations.
Moi, je peux le faire si tu veux.
Tu sais faire le général
en
de Gaulle?
En belge, si tu veux.
Ah non.
Je peux faire de la... Non,
non c'est le général de Gaulle, ça marche pas.
Okay.
Mais du coup, je vais le faire normal. Mais je cite, il a prononcé ça du coup au balcon de l'hôtel de ville de Lyon.
Comment dire à Lyon toute l'émotion, toute la gratitude que je ressens de cette capitale gauloise qui fut ensuite la capitale de la résistance française et qui est aujourd'hui une très grande ville de notre France couverte de blessures éclatantes dans son honneur et emportée par son espérance.
Et en fait, juste après, il y a eu énormément de reprises de ce discours, évidemment. On est juste après-guerre, il faut reconstruire la France, il faut donner un élan, il faut donner une propagande de reconstruction. Et le mot « capitale de résistance » est resté ancré et notamment porté par la presse. Et c'est à partir de ce moment-là où, en fait, que ça s'est vérifié, qu'on a commencé en plus à réunir tous les récits de résistants et de résistantes, qu'on a croisé ça aux archives, et on s'est rendu compte, en fait, bah ouais, c'est à Lyon que se sont synchronisés et réunis les premiers petits groupes de résistants dès 1940, qui ont formé rapidement de vrais réseaux tentaculaires avec une hiérarchie militaire, des soldats, des caches, des imprimeries clandestines, des fonctionnaires acquis à la cause dans tous les services publics, etc., etc. Bref, la capitale de la résistance, point à la ligne, c'est pas négociable. Et ça, c'est dans les faits. Ce qui fait que Lyon a pu devenir, du coup, capitale de la résistance, c'est une conjonction de plusieurs facteurs. Je vais en citer trois majeurs. Déjà de 1, démographiquement, Lyon, c'est une grande ville,
ouais,
avec des villes satellites aussi très denses et très ouvrières. On pense à Villeurbanne, on pense à Vénissieux, à Bron, à Rieux. Ce qui fait que, d'un côté, les résistants pouvaient facilement se fondre dans cette foule, hein, qui était nombreuse, et de l'autre côté, bah, la police et les renseignements galéraient à contrôler cette même foule. Le deuxième facteur, il est historique. Lyon est une ville fortement républicaine, avec des racines profondément ancrées, notamment du côté de la lutte ouvrière. Les ouvriers sont en effet massivement syndiqués et organisés. De l'autre côté, du côté des patrons, on a une bourgeoisie qui est riche et suffisamment nombreuse pour que l'argent circule facilement. Qui plus est, donc je l'ai dit en intro quand je parlais de Lyon, capitale de l'imprimerie, il y a toujours une imprimerie qui est une industrie qui est hyper solide, qui va des grandes presses aux petits ateliers familiaux et qui permettra rapidement aux premiers groupes de résistants d'imprimer facilement leurs premiers tracts et leurs premiers journaux. Et troisième facteur, c'est la géographie. Que ce soit l'échelle micro ou macro. Donc là, je vais détailler en deux sous-points. Micro, parce que les infrastructures pour se déplacer rapidement et discrètement en ville sont là. Il y a les tramways, il y a les bus, il y a les trains, et en plus de ça, il y a les traboules. T'en parlais, Sérène.
Oui.
Ce réseau de couloirs et de cours intérieurs qui permettent à la fois de semer les condés en cas de poursuite, mais en plus d'utiliser les boîtes aux lettres, qui ne sont pas surveillées quand il n'y a pas de gardien à l'entrée des immeubles, pour faire passer des messages en toute discrétion.
Question que je me suis toujours posée, donc
oui,
peut-être que tu as la réponse.
Vas-y.
À quel moment les traboules ont été créées, ou alors est-ce que c'est vraiment pendant la première,
Non, ça existe bien avant.
Ouais.
Okay.
Non, en fait, à la base, les traboules, donc déjà, ça vient de transboulare, qui veut dire traverser, donc du latin. Et en fait, ça c'était surtout été utilisé sur les rives de Saône parce qu'il n'y avait pas de place. Le vieux Lyon, c'est coincé entre la colline de Fourvière et la Saône. Ce qui fait que pour quand tu avais des grandes rues qui traversait, enfin qui longeait le cours de la Saône, pour amener typiquement les marchandises que tu débarquais quai de Saône et que tu devais remonter dans les typiquement rue du Bœuf, il fallait que tu traverses les bâtiments.
Et
on a créé des cours et des passages comme ça à l'intérieur.
Ok, ça. Et tu sais à quel moment on a commencé à...
C'est Moyen-Âge.
Moyen-Âge,
ouais. Moyen-Âge, ouais.
Ok, c'est très vieux.
D'accord.
Ouais, ouais.
Trop cool. C'était très utilisé par les canuts aussi.
Mm-hmm.
Donc tu vois, tu as un historique d'utilisation qui est hyper varié.
Ouais.
Et qui est hyper intéressant.
Ouais.
Trop bien.
En vrai, tu pourrais faire une visite de Lyon.
Ouais, qu'avec
dans le temps,
ça, je l'ai fait.
Qu'à travers les traboules.
Ouais, ça, c'est chouette.
D'ailleurs, j'en profite. Moi, j'ai fait une visite guidée qui était hyper cool, qui a commencé à la Maison des Canuts à la Croix-Rousse, où tu descends toutes les traboules des pentes de la Croix-Rousse sur la thématique de la résistance.
Est-ce que c'était avec Cybèle?
C'était pas avec Cybèle. C'était une guide indépendante à qui je rends hommage parce qu'elle a fait un travail de fou. En plus, elle a travaillé sur un film avec la prison de Montluc et les résistants pour récolter énormément d'archives et de témoignages. C'est incroyable. Il y a un film qui est dispo à la bibliothèque municipale. Je redonnerai
De laquelle bibliothèque?
La bibliothèque de Pardieu, quoi.
Ah oui, d'accord. Okay.
Bibliothèque municipale. Il y a un film qui est dispo, justement, qui retrace tous ces témoignages de résistants. Avec, justement, typiquement, dans les résistants dont on parle, c'est à Eugène Ponce, qui était un imprimeur qui habitait, je crois, rue Néret. Enfin, bref, c'est ouf.
Si je peux me permettre une aparté aussi, mon copain a aider des élèves à faire un documentaire sur la résistance à Lyon qui est disponible sur YouTube. On confirmera ça sur Instagram,
ouais,
où il y a des témoignages de résistants qui sont encore vivants et qui parlent de leur expérience de résistance, mais aussi comment la résistance est perçue de nos jours.
Ouais.
Et c'est extrêmement intéressant et c'est très émouvant aussi.
Ok. Donc tout ça, c'est les références qu'on vous mettra soit dans les descriptions des réseaux sociaux ou même dans les descriptions de l'épisode. N'hésitez pas à suivre. Donc, j'en étais au troisième facteur qui était la géographie à échelle micro, pour rappeler que voilà, il y avait des infrastructures pour se déplacer rapidement et discrètement. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on parlait des traboules. Mais Lyon est avantageuse géographiquement à l'échelle macro aussi, parce qu'elle est située en zone libre. Et oui, parce qu'en juin 1940, juste après l'armistice signé par le maréchal Pétain, la France, elle est coupée en deux. T'as d'un côté une zone qui est occupée par les Allemands, dont font partie les villes comme Paris, Lille, Nantes, Brest, Bordeaux, Bayonne, si on doit citer les grandes villes. Globalement, les Allemands occupent une zone qui leur permet de contrôler la façade maritime atlantique et de la Manche, hein, évidemment, afin de pouvoir empêcher tout débarquement anglais, car je le rappelle, la Grande-Bretagne est encore en guerre, officiellement. Et c'est la dernière à combattre d'ailleurs à l'été 1940. L'autre zone, elle est dite libre et elle est administrée par le gouvernement absolutiste de Pétain qui aurait dû, selon toute logique, nommer Lyon capitale de la zone libre. Ce qui aurait été chiant honnêtement parce que pour le coup, encore aujourd'hui, quand on prononce le nom de Vichy, tu vois, genre, il y a ton cerveau qui fait un point Godwin, tac, instantanément en mode Vichy, Hitler, les juifs, tout de suite, tu vois, genre.
Les gens, non.
Instantanément. Genre, tu pastilles Vichy, machin, c'est encore énormément dans nos... Et en fait, ça aurait été chiant en tant que Lyonnais d'avoir que Lyon soit là. Donc, bon, en fait, fort heureusement pour nous Lyonnais, Lyon était, comme je disais en point 1, était trop républicaine, avec notamment son maire, hein, Édouard Herriot, quand même radical de gauche, qui était opposé à la vision de la France de Pétain, et donc trop pour que Pétain y installe son gouvernement, et donc il privilégia Vichy. Donc, Lyon était quand même une grande ville de la zone libre, certes, pas capitale du gouvernement, mais une grande ville de la zone libre. Et géographiquement toujours, Lyon est entouré de ce qui deviendra les maquis, ces grandes zones forestières et montagneuses, denses et mal desservies, idéales pour la contrebande et la cache. On peut citer l'Ain, le Jura, la Savoie, le Vercors, d'ailleurs Vercors qui a proclamé la République dès les premiers mois de 1944, tout seul, ce qui a valu derrière une grosse bataille et une répression atroce de la part des Allemands. Bref, mais on ne va pas oublier non plus la Suisse, non loin, qui est un du coup pays neutre et qui permet de faire passer du monde en sécurité. Bref, tout était fait géographiquement pour que Lyon devienne un haut lieu de la résistance. Et ça n'a pas loupé. Dès les premières attaques allemandes en mai 1940 dans le nord de la France, des milliers de réfugiés affluent à Lyon. Puis on connaît l'histoire, rapidement Paris se livre, ville ouverte, et la France entière se retrouve sur les routes, fuyant plein sud, sous les raids des Stuka, les avions allemands, direction ce qui sera bientôt la zone libre. Je fais un focus sur la population juive pour vous donner une idée aussi. Les juifs lyonnais à l'époque sont recensés. On peut plus faire ça aujourd'hui, mais à l'époque, on le faisait. Et d'environ 3000 avant la guerre, ils sont passés à 70 000 dès 1942.
Ah oui.
Pour vous dire à peu près cet afflux de population juste juive. Alors imaginez, ce ne sont pas les seuls hein, d'ailleurs, imaginez tout le nombre de personnes qui quittent la zone occupée pour arriver en zone libre, et donc à Lyon. Et ce, notamment pour renforcer, ça a servi, les groupes de résistants. On pense notamment aux intellectuels, aux artistes qui étaient très engagés politiquement et qui tout de suite se sont engagés pour consolider les groupes de résistance sérieusement à Lyon. Et parmi les tout premiers groupes qui voient le jour dès 1940, on peut citer notamment Franc-Tireur, ou encore le groupe dont font partie Lucie et Raymond Aubrac, Libération Sud, ou encore Liberté, un des tout premiers, et finalement Combat, le groupe de Bertolt Brecht. Vous voyez, j'ai cité énormément de femmes, donc on retrouve ce que tu disais, Élodie. Tous ces groupes dès 1940, j'insiste sur 1940 parce que c'est pas le cas partout en France, hein, mais tous ces groupes-là, très rapidement, ils ont en commun d'entreprendre des actions de résistance. Alors en 1940, résistance, quand on pense action de résistance, on va penser forcément à faire sauter des trucs. En 1940, ce n'est pas du tout le cas. Ça veut surtout dire contrer d'abord la propagande hyper forte du régime de Vichy, qui mine de rien séduit, on va dire, 90% des Français, voire même 95% des Français. Et donc, du coup, des Lyonnais. C'est bien plus tard, en 1942, quand les rationnements seront hyper durs et que les rafles de juifs, slash communistes, slash syndiqués, slash toutes les minorités que tu veux, deviennent courantes, que la population commence à voir d'un bon œil la résistance. Pas avant. C'est Lucie Aubrac, en fait, dans ses mémoires, qui est hyper active à Lyon à l'époque, décrit très bien les actions des informations qu'on faisait au tout début de la résistance. Pour vous donner des exemples, à Lyon, on fabrique des faux papiers. On planque les copains qui passent par Lyon. On imprime des journaux clandestins. On tague les murs avec des croix de Lorraine. On oublie intentionnellement des tracts partisans dans des lieux fréquentés. Voire même, on met des tracts directement dans la poche des gens quand ils font la queue pour obtenir leur beurre, leur lait, quand on est dans les queues pour le rationnement. C'est ce genre d'action qu'on peut faire. On vole des tickets de rationnement, on recrute des collègues. Voilà, tout ça s'est mis en place lorsqu'on n'a pas les moyens militaires de lutter encore. Et parmi les coups d'éclat classiques, que j'aime bien citer, il y a le coup de prétexter une erreur d'impression un matin auprès d'un kiosque à journaux pour remplacer un ballot entier de journaux de Vichy avec des faux journaux de Vichy qui portent le même titre mais qui sont blindés d'articles qui sont pro-résistance. Et ça marche, tu diffuses les idées largement comme ça. Au début, c'est vraiment susciter l'adhésion de la population à la cause de la résistance. Lyon est donc très tôt le siège principal de la résistance française avec tous les mouvements de résistance de la zone libre qui ont leur QG ici à Lyon, si bien que François Morin, qui était un grand résistant, il explique que, je cite, « on ne pouvait pas faire 10 mètres sans se heurter à un autre camarade de clandestinité qu'il fallait ignorer jusqu'à ce qu'on se précipite sur lui une heure après, comme un frère ». Donc c'est marrant de se dire que, voilà, là on est en 1940-1941, il y avait déjà énormément de résistants qui tournaient et ça s'activait. Et ça c'est uniquement à Lyon, c'est ça qui est ouf. Et plus les mois passent, plus les réseaux lyonnais deviennent structurés et équipés, notamment grâce à Jean Moulin, qui débarque à Lyon en 1942, justement avec mission principale d'unifier les différents groupes et créer l'armée secrète. Rex, qui était son nom de couverture, associé au général Delestrain, va permettre ainsi à la résistance de gagner en efficacité, d'être mieux ravitaillée en armes et de bénéficier d'entraînements paramilitaires. On commence à attaquer la deuxième phase de la résistance. Ce qui fait qu'à partir de 1943, les actions deviennent plus musclées. On fait dérailler les trains, on fait sauter les locaux de la milice collaborationniste, on organise des évasions de prisonniers, ce qui était la spécialité de Lucie Aubrac. D'ailleurs, je vous recommande mon podcast. J'ai fait un podcast sur les Lyonnaises badass et je raconte l'histoire de Lucie Aubrac et notamment comment elle a sauvé son mari, Raymond Aubrac, en faisant une évasion, mais de barjo. La meuf était folle. Enfin, c'est incroyable. N'hésitez pas, sur les traces de l'histoire, c'est disponible en podcast. Bref, les actions comme saboter des usines, tout ce qui peut désorganiser le régime autoritaire en place et empêcher la production de ressources destinées aux Allemands, c'est ça le but. Et oui, parce que les Français bossent pour les Allemands. Certains malgré eux, d'autres avec plus d'entrain. Je citerai pas de nom aujourd'hui. Mais ces actions sont aussi plus dangereuses. Parce que oui, en face, on s'organise aussi. Faut pas oublier que du côté allemand, c'est à Lyon qu'on installe les QG aussi. Les QG d'état-major, d'une Platzkommandant de Tour, de la Feldgendarmerie, des SS et de la Gestapo avec à sa tête le boucher Klaus Barbie. Ce qui fait que la répression à Lyon est à la hauteur de sa résistance, c'est-à-dire très, très, très dure. Les rafles sont massives, on peut citer la rafle de la rue Sainte-Catherine, la rafle des villes urbanées en 1943. Les actions contre les groupes armés sont aussi hyper violentes, comme l'assaut du garage à Rieux-la-Pape, à Vancia, ou bien sûr l'arrestation de Jean Moulin à Caluire en 1943, qui mettra d'ailleurs un gros coup d'arrêt au mouvement résistant, leur tête étant maintenant coupée. Parce que c'est pas le seul Jean Moulin à être arrêté, il y a énormément de chefs qui s'étaient réunis, qui se sont fait rafler. Puis finalement, 1944 arrive, la majeure partie des Lyonnais ont perdu foi en Pétain et croient dur comme fer à la défaite des Allemands. Ce qui fait que les groupes armés croissent de jour en jour, notamment pour fuir le STO. On n'en parle pas, mais STO, ça veut dire service de travail obligatoire. C'est-à-dire que les Français partent, sont déportés en Allemagne pour bosser dans les usines. Et ça, avant de partir, ils fuient dans les maquis, justement, et rejoignent les groupes armés. Ce qui fait que, de plus en plus, les actions résistantes deviennent osées. Et les Allemands, en représailles, exécute sans plus aucun discernement. À la prison Montluc, des centaines de prisonniers sont ainsi fusillés. Place Bellecour, 5 résistants sont tués, leurs corps abandonnés et exposés volontairement à la vue de toutes et tous, en empêchant d'enlever les corps. Ça aussi, je le raconte, épisode 1 de sur la place Bellecour, je raconte l'histoire de ces 5 résistants. En tout, ce sont plus de 2000 personnes qui sont exécutées à Lyon, sans compter Jean Moulin, capturé, qui mourra pendant sa déportation vers l'Allemagne. Après, on connaît tous l'histoire, les alliés débarquent en Normandie, puis en Provence, les soldats majoritairement corses et issus des colonies d'Afrique assistés des quelques forces françaises libres et des partisans qui les rejoignent au fur et à mesure de la remontée le long de la vallée du Rhône, libèrent finalement Lyon début septembre 1944, et c'est quelques jours plus tard, le 14 septembre, que le général de Gaulle décernera le titre qui restera pour toutes et tous désormais dans les annales, Lyon, capitale de la résistance.
Bravo JD.
Non, c'est hyper intéressant.
Mais c'est trop génial.
Dense comme
j'ai
histoire.
Bu tes paroles, ouais.
Ben, l'histoire est folle. En fait, j'ai dû laisser de côté tellement de choses, oui. Tellement de noms, tellement de. Il y avait tellement de choses à faire. Bon, il faut que ça rentre en 10 minutes. Mais n'empêche, vous aviez juste sur.
Mais moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que tu le soulignes à un moment, c'est que Lyon est une ville très paradoxale quand il s'agit de la résistance, de la Seconde Guerre mondiale. C'est que tu as énormément de résistance, mais à côté, tu as énormément d'actions allemandes. Et l'équilibre est assez incroyable entre les deux.
Ouais, complètement. Complètement. Bah, ça a été à la hauteur. Hein. Si la Gestapo s'est installée à Lyon, c'était pas par hasard. Mm-mm. C'est qu'ils savaient que, effectivement, la résistance, elle s'organisait là, quoi.
Ouais.
Et donc, du coup, en fait, ça m'amène à vous recommander 2 expos à Lyon sur la thématique de la Seconde Guerre mondiale qui sont d'actualité. La première, elle n'est pas encore annoncée officiellement, donc je fais du teasing, mais ça ne devrait pas tarder à être annoncé. C'est une exposition immersive. Donc, je pense que Hello, tu pourras témoigner de si elle est vraiment immersive ou pas. Si c'est vraiment comme t'entends l'immersion. Mais c'est le mémorial de la prison de Montluc. C'est pas un musée, c'est un mémorial. Qui propose de se plonger dans l'histoire de Marc Bloch, célèbre résistant puis par la suite historien de renom d'ailleurs, qui comme Jean Moulin sera interné dans cette même prison de Montluc qu'on peut visiter. Et pour vous raconter l'histoire de Marc Bloch, c'est à travers une expérience avec du son binaural à 360 degrés, scénarisé, joué avec des acteurs et des actrices, le tout appuyé par des archives et des témoignages.
Mais non ! Incroyable !
Voilà.
C'est quand ? Ça commence quand ?
Ça n'a pas été annoncé. Ça, en fait, vraiment, ça ne devrait pas tarder. Je pense que dans les semaines qui viennent, c'est annoncé.
Génial.
Mais en fait, tout ça, ça fait que je pense que c'est vraiment une expo inédite à vivre parce qu'on reste dans une prison. C'est assez glauque de base, tu vois. Et je pense qu'avec ce son binaural, ça peut être vraiment incroyable. Et je pense que, à mon avis, c'est à ne pas rater.
Ouais, je peux faire un parallèle sur
les
prisons.
Bien sûr.
Il y a un super organisme qui s'appelle Prison Insider, qui est basé à Lyon. C'est des copains. Et ils ont lancé un podcast qui s'appelle Détenus au féminin pluriel.
On avait parlé, c'est ouf.
Et c'est des histoires de femmes qui racontent leur détention en prison. C'est génial. Et ça a été produit il n'y a pas très longtemps. Donc, allez, sur toutes les plateformes de podcast, vous pourrez écouter des histoires.
Redis le nom, comment ça s'appelle ?
Détenu, UES à la fin.
Ok, trop cool. La deuxième expo, c'est une expo toute fraîche, puisqu'elle commence le 2 février au CHRD. CHRD étant Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation à Lyon, avenue Berthelot. C'est aussi le coup de Sciences Po, pour info. L'ancienne prison de santé. Alors évidemment, donc le parcours permanent est très très cool. Hein. Il a été refait il n'y a pas si longtemps que ça, en plus je vous le conseille bien sûr. Mais ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est de l'expo temporaire sur Madeleine Riffaud. J'ai la BD ici, là, vous voyez. Alors, je fais pour la caméra, c'est pas très radio-friendly, mais il y a une BD, en fait, qui est sortie sur Madeleine Riffaud, qui est une résistante avec une histoire de fou, comme cette période tragique a su en créer, malheureusement, et qui est encore parmi nous aujourd'hui. Elle est vivante, et c'est elle, du coup, qui témoigne. Et l'expo retrace, donc, son histoire à travers des planches de cette BD, qui s'appelle du coup Madeleine Résistante. C'est quoi la maison d'édition ? La maison d'édition, c'est Air Libre. Et en fait, c'est sous les plumes de Jean-David Morvan et de Dominique Bertaille, et surtout à travers les yeux de Madeleine, hein, qui était enfant, qu'on voit la France de 1940. Et tout le long du récit, on grandit avec elle, tout en voyant grandir la lutte en elle qui la transformera en une véritable résistante active. Madeleine rejoint la lutte armée en 1944, se fait capturer, torturer, condamner à mort plusieurs fois pour finalement venir libérer Paris, arme à la main. Mais son parcours ne s'arrête pas là, pas juste à la fin de la guerre. Elle deviendra poétesse plus tard, puis journaliste, puis reporter de guerre en couvrant notamment la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, pour finalement, en France, revenir travailler comme infirmière au sein de l'hôpital public dont elle dénoncera les coupes budgétaires et les conditions de travail dans un livre. Bref, une vie plus que remplie que raconte cette expo qui, je le rappelle, se passe au CHRD à partir du 2 février.
Super. Merci JD.
Merci JD.
Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère que cette plongée dans le lion de la résistance vous a plu et que vous aurez envie d'aller soit au CHRD ou vous faire une visite guidée des traboules sur le thème de la résistance pour en apprendre encore plus. En tout cas, je vous dis à très bientôt et je vous partage ici même sur cette chaîne très vite la dernière chronique en date de Ganache qui sera, attention, je tease le sujet, sur la première grande grève des femmes ouvrières en France. Et oui, c'est au sein de la grande fabrique de la soie lyonnaise que ça a eu lieu. Et on marchera du coup ensemble, aux côtés de ces braves ovalistes, sur les traces de l'histoire.